Bonjour et bienvenue dans la quatrième dimension. Le livre tibétain de la vie et de la mort par Sogyal Rinpoche. Fin de la première partie sur l'impermanence. Notre vie est-elle autre chose que ce balai de formes éphémères? Tout ne change-t-il pas continuellement? Les feuilles des arbres dans le parc, la lumière dans la pièce où vous lisez ces lignes, les saisons, le temps qu'il fait, l'heure qu'il est, les personnes que vous croisez dans la rue. Et qu'en est-il de nous? Toutes nos actions passées ne nous apparaissent-elles pas aujourd'hui comme un rêve? Les amis avec lesquels nous avons grandi, les lieux de notre enfance, les points de vue et opinions que nous défendions autrement avec tant d'opiniâtreté, tout cela, nous l'avons laissé derrière nous. Maintenant, à cet instant, lire ce livre vous semble tout à fait réel. Pourtant, même cette page ne sera bientôt plus qu'un souvenir. Les cellules de notre corps meurent. Les neurones de notre cerveau se détériorent. Et même l'expression de notre visage se modifie sans cesse, au gré de nos humeurs. Ce que nous considérons comme notre caractère fondamental n'est rien de plus qu'un courant de pensée. Aujourd'hui, la vie nous semble belle car tout va bien. Demain, ce sera le contraire. Où sera passé notre bel optimisme? De nouvelles influences nous auront affectés au gré des circonstances. Nous sommes impermanents. Les influences sont impermanentes. Et il n'existe rien que l'on puisse qualifier de stable ou de durable. Qu'y a-t-il de plus imprévisible que nos pensées et nos émotions? Avez-vous la moindre idée de ce que vous allez penser ou ressentir dans un instant? Notre esprit, en réalité, est aussi vide, aussi impermanent et aussi transitoire qu'un rêve. Observez une pensée, elle vient. Elle demeure et s'en va. Le passé est passé. Le futur ne s'est pas encore manifesté. Et la pensée actuelle, au moment où nous en faisons l'expérience, se mue déjà en passé. En réalité, seul l'instant présent, le maintenant, nous appartient. Parfois, lorsque j'enseigne sur ce sujet, quelqu'un vient me trouver à la fin et me dit « Tout cela semble évident. Je le sais depuis toujours. Dites-moi quelque chose de nouveau. » Je lui réponds « Avez-vous réellement compris et réalisé la vérité de l'impermanence? L'avez-vous si parfaitement intégré dans chacune de vos pensées ? Chacune de vos respirations, chacun de vos mouvements, que votre existence en a été transformée. Posez-vous ces deux questions. Est-ce que je me souviens à chaque instant que je suis en train de mourir, ainsi que toute personne et toute chose? Et est-ce que je traite en conséquence tous les êtres à tout moment, avec compassion? « Ma compréhension de la mort et de l'impermanence est-elle devenue si vive et si aiguë que je consacre chaque seconde de mon existence à la poursuite de l'éveil? Si vous pouvez répondre par l'affirmative à ces deux questions, alors oui, vous avez réellement compris l'impermanence. Troisième partie. Réflexion et changement. Au Tibet, lorsque j'étais enfant, j'entendis l'histoire de Krishna Gotami, une jeune femme qui eut la chance de vivre au temps du Bouddha. Quand son premier enfant eut environ 1 an, il tomba malade et mourut. Écrasée de chagrin, serrant le petit corps contre elle, Krishna Gotami se mit à errer dans les rues, implorant ceux qu'elle rencontrait de lui donner un remède qui rendrait la vie à son enfant. Certains l'ignorèrent, d'autres se moquèrent d'elle. D'autres encore la crurent folle. Mais finalement, sur le chemin, un homme sage lui dit que la seule personne au monde pouvant accomplir le miracle qu'elle réclamait était le Bouddha. Elle alla donc voir le Bouddha, déposa le corps de son enfant à ses pieds et lui raconta son histoire. Le Bouddha l'écouta avec une infinie compassion. Puis lui dit doucement : Il n'y a qu'un remède au mal qui t'assaille. Descends à la ville et rapporte-moi une graine de moutarde provenant d'une maison où il n'y a jamais eu de mort. Transporté de joie, Krishna Gotami se mit immédiatement en route pour la ville, s'arrêtant à la première maison qu'elle vit sur son chemin. Elle dit : Le Bouddha m'a demandé de lui rapporter une graine de moutarde provenant d'une maison qui n'a jamais connu la mort. Beaucoup de gens sont morts dans cette maison, lui fut-il répondu. Elle se rendit à la maison suivante. Notre famille a connu des morts innombrables, lui dit-on. De même à la troisième et à la quatrième maison. Finalement, ayant fait le tour de la ville, elle réalisa que la requête du Bouddha ne pouvait être satisfaite. Elle emporta le corps de son enfant au cimetière et lui adressa un dernier adieu. Puis elle s'en retourna auprès du Bouddha. Celui-ci lui demanda : As-tu apporté la graine de moutarde ? Non, dit-elle, je commence à comprendre ce que vous avez voulu me montrer. Le chagrin m'a aveuglé et j'ai cru que j'étais la seule à avoir été éprouvée par les souffrances de la mort. Pourquoi es-tu revenu ? Demanda le Bouddha. Pour vous demander de m'enseigner la vérité sur la mort, sur ce qui est au-delà de la mort, et sur ce qui, en moi, peut ne pas mourir. Le Bouddha commença alors à lui donner son enseignement. Si tu veux connaître la vérité de la vie et de la mort, tu dois réfléchir continuellement à ceci. La seule loi dans l'univers qui ne soit pas soumise au changement et que tout change, et que tout est impermanent. La mort de ton enfant te permet de voir à présent que le royaume dans lequel nous vivons, le samsara, est un océan de souffrance intolérable. La seule et unique voie qui peut te conduire hors de cette ronde incessante des naissances et des morts est le chemin de la libération. Parce que tu as fait l'expérience de la douleur, tu es maintenant prête à apprendre. Puisque ton cœur commence à s'ouvrir, je vais te montrer la vérité. Krishna Gotami s'agenouilla à ses pieds et elle le suivit tout le reste de sa vie. Vers la fin, dit-on, elle atteignit l'éveil. Accepter la mort. L'histoire de Krishna Gotami illustre ce que nous avons souvent l'occasion d'observer lorsque nous voyons la mort de près. S'offre alors à nous la possibilité d'un éveil véritable, d'une transformation complète de notre approche de la vie. Prenez par exemple le cas de l'expérience de proximité de la mort. Une de ses révélations majeures est peut-être à quel point elle bouleverse l'existence de ceux qui l'ont vécue. Les chercheurs ont noté un éventail saisissant de répercussions et de changements. Une plus grande acceptation de la mort et une diminution de la peur qu'elle inspire. Un souci accru d'aider les autres, une vue plus lucide de l'importance de l'amour. Un intérêt moindre pour la poursuite des biens matériels. Une foi grandissante dans une dimension spirituelle et dans le sens sacré de la vie. Et bien sûr, un esprit plus ouvert à la croyance en une après-vie. Un homme déclara à Kenneth Ring: auparavant, j'étais perdu et j'errais sans but, sans autre objectif dans la vie que de satisfaire mon désir pour les biens matériels. J'ai été transformé en un homme animé d'une motivation profonde, d'un but dans l'existence, d'une direction précise et d'une conviction absolue qu'il y a une réponse, qu'il y a une récompense à la fin de cette vie. Mon intérêt pour les biens matériels et mon appétit de possession ont été remplacés par une soif de compréhension spirituelle et par le désir passionné de voir les conditions du monde s'améliorer. Une femme confia à Margot Gray, chercheur anglais étudiant les expériences de proximité de la mort: ce qui a émergé lentement, c'était un sens renforcé de l'amour, la possibilité de communiquer cet amour, la capacité de recevoir de la joie et du plaisir de ceux qui m'entouraient, même des choses les plus infimes et les plus insignifiantes. Une grande compassion est née en moi envers ceux qui étaient malades et affrontaient la mort. Je voulais tant leur faire savoir, leur faire comprendre que le processus de la mort n'est rien de plus qu'un prolongement de la vie. Nous le savons bien. Des crises majeures, comme par exemple une maladie grave, peuvent provoquer un bouleversement d'une profondeur similaire. Freda Naylor, une femme médecin, qui tint courageusement son journal tandis qu'elle mourait d'un cancer, écrivit: J'ai vécu des expériences que je n'aurais jamais connues autrement et pour lesquelles je dois remercier le cancer, l'humilité, l'acceptation de ma propre mortalité, la découverte constamment renouvelée de ma force intérieure et bien d'autres choses que j'ai pu découvrir à mon sujet. Parce qu'il m'a fallu m'arrêter net, faire le point pour poursuivre. Si nous sommes véritablement capables de faire le point, puis poursuivre, animés d'une humilité et d'une ouverture d'esprit nouvelle, ainsi que d'une acceptation véritable de notre mort, nous serons beaucoup plus réceptifs à une pratique et à un enseignement spirituel. Il se pourrait d'ailleurs que cette réceptivité nous ouvre également à une autre possibilité remarquable, celle d'une guérison réelle. Je me souviens d'une Américaine d'un certain âge qui était venue voir Dudjon Rinpoche à New York en 1976. Elle ne s'intéressait pas particulièrement au bouddhisme, mais elle avait entendu dire qu'un grand maître était en ville. Gravement malade, elle était en désespoir de cause, prête à tout essayer, même voir un maître tibétain. À cette époque-là, j'étais l'interprète de Dudjon Rinpoche. Cette femme pénétra dans la pièce et s'assit en face de lui. Elle était si bouleversée par son propre état et par la présence de Dudjon Rinpoche qu'elle fondit en larmes. Elle déclara précipitamment : « Mon docteur ne me donne que quelques mois à vivre. Pouvez-vous m'aider ? Je suis en train de mourir. » À son étonnement, Dudjon Rinpoche eut un petit rire, empli de douceur et de compassion. Puis il lui dit tranquillement : « Voyez-vous, nous sommes tous en train de mourir. Ce n'est qu'une question de temps. Ceux d'entre nous meurent simplement plus tôt que d'autres. » Par ces quelques mots, il l'aida à reconnaître le caractère universel de la mort et lui montra que l'imminence de la sienne n'était en rien exceptionnelle. Cela atténua son angoisse. Il parla alors du processus de la mort et de l'espoir qui y est contenu. Pour finir, il lui donna une pratique de guérison qu'elle suivit avec enthousiasme. Cette femme en vint non seulement accepter la mort, mais ayant suivi scrupuleusement les instructions reçues, elle guérit. On m'a rapporté de nombreux autres cas de personnes en phase terminale auxquelles on n'avait plus donné que quelques mois à vivre. Après que ces personnes se furent retirées dans la solitude, eurent suivi une pratique spirituelle et fait face à elles-mêmes et à la réalité de leur mort en toute sincérité. Elles guérirent. Qu'en concluons-nous? Que lorsque nous acceptons la mort, transformons notre attitude envers la vie et découvrons le lien fondamental qui existe entre la vie et la mort. Une possibilité extraordinaire de guérison se présente à nous. Les bouddhistes tibétains considèrent que des maladies comme le cancer peuvent constituer un avertissement. Leur rôle étant de nous rappeler que nous avons négligé certaines dimensions profondes de notre être, comme celle de la vie spirituelle. Si nous prenons cet avertissement au sérieux et modifions radicalement la direction de notre vie, un espoir très réel de guérison, non seulement de notre corps, mais de notre être tout entier, s'offre alors à nous.